Nous sommes anonymes, nous sommes dans l'ombre. Les sous-bassements sont nos refuges, ils seront vos tombes. Du formol ou de la putréfaction, le capitaliste n'est que la chair. Nous en serons les lombrics obèses. Ni oubli ni pardon. www.libradio.org. La radio de la fosse et de l'abîme.
Voilà, donc nous sommes de retour pour le direct en public depuis notre nouveau studio ici à l'espace 99. C'est la troisième et dernière partie de cette émission et nous sommes en compagnie désormais de Sonia Ricli. Bienvenue à toi Sonia.
Bonjour William.
Bonjour, bonjour. Es-tu bien installée ?
Je suis parfaitement installée, il fait même chaud, hein, tu
ouais,
le disais tout
à l'heure.
Ouais,
t'es d'accord, hein, t'as vu, notre nouveau petit local, on en est bien content.
Un bon cocon.
Ouais, et puis pour affronter l'hiver, c'est exactement ça, on s'est dit qu'on allait aller dans un petit cocon se chauffer, plutôt que l'Almacène, qui est une magnifique salle, dans un magnifique quartier, hein, les grottes, mais où franchement l'hiver, franchement c'est dur, quoi. C'est 5 degrés, ça va pas.
Et là ça va, vous n'êtes pas trop loin des grottes non plus.
Non, c'est vrai, absolument. Alors tu es là, tu es parmi nous, parce que toi-même tu es membre du mouvement La Culture Lutte.
Exactement.
Dont tu vas nous tracer quand même quelques contours, je suppose. Et à l'aune de la conférence que vous organisez, que vous co-organisez avec le collectif La Brèche, qui aura lieu le mardi 31 octobre, donc mardi prochain, à 18h au Théâtre de l'Usine. Alors, d'ores et déjà, le Théâtre de l'Usine, on le sait, c'est rue de la Couvrenière numéro 11.
Exact.
Ce sera dans la salle de répétition du premier étage.
Oui, c'est ça, oui.
Et cette conférence débat, quel en est le libellé, le sujet ?
Alors, cette conférence débat, déjà, elle accueille une certaine dame qui s'appelle Lydia Cirillo, qui est une personne très importante pour nous, en tout cas, parce qu'elle a, bon, déjà, elle est membre, elle est féministe, c'est une féministe militante de longue date qui a, pour te donner quelques éléments d'histoire, naturellement, elle est d'extrême gauche, elle a été membre de la section italienne de la 4e internationale depuis 1966, et elle est une des figures phares de la marche mondiale des femmes en Italie. Donc, elle a également fondé les Cahiers Violets, qui en italien, ça donne Quaderni Viola, et c'est une revue féministe. Et donc là où elle nous intéresse particulièrement, c'est qu'elle est l'auteur d'un livre qui s'appelle Lutte en français, donc Lutte de classe sur la scène, où les théâtres occupés se racontent. Donc je le dis en italien aussi, pour que vous voyez à quel point je ne parle pas l'italien. Donc ça donne Lotta di classe sul palcoscenico. I teatri occupati si raccontano. Hein, voilà.
C'est absolument ça. Non, non, c'est très bien dit. Comme tu as une jolie voix comme ça, basse, c'est vrai que l'italien sonne bien. Enfin, je trouve que c'est une langue.
À la mine.
Non, mais oui, absolument.
Il manque plus qu'Adriano. Bon, revenons-en à nos moutons. Donc, cette dame qui est donc une militante et féministe et aussi sur les questions de lutte dans les milieux culturels. Elle a donc écrit ce livre qui nous a interpellés. Il faut savoir que on n'en est pas arrivé. Je vais un peu reprendre l'historique, c'est-à-dire tu as dit le collectif La Brèche. Je ne sais pas si c'est un collectif. Moi, je parlerais plutôt. Je crois qu'il se nomme plutôt le cercle La Brèche.
Tu as raison. Tout à fait.
Qui donc sont des jeunes sympathisants ou membres du mouvement pour le socialisme. Donc des jeunes gens très impliqués qui sont un peu dans toutes les villes de Suisse. Et donc moi, nous étions en communication avec Davide Salvia, qui est également permanent à l'usine, permanent donc de la grande structure.
Oui.
Et donc, Davide venait à nos séances de réflexion, action que nous organisions avec la Culture Lutte durant toute l'année passée et qui ont vu le jour en 2015-2016 et qui se perpétuent encore aujourd'hui. Et donc, ces séances de réflexion, action, elles ont lieu à peu près toutes les deux semaines. Et l'idée, c'est de se réunir pour réfléchir un peu à notre monde de manière totalement, assez intemporel, c'est-à-dire se poser des questions, se permettre des réflexions sans être toujours en réaction aux événements du jour et de la veille.
Tout à fait. Qui sont ces personnes qui se réunissent ?
Alors, pour l'instant, je dois avouer que j'y suis pas encore allée en cette nouvelle année scolaire, mais l'année passée, c'était principalement moi qui les organisais en compagnie de Melissa Cascarino, qui est donc danseuse, chorégraphe, interprète, aussi pianiste. Et on les animait, c'est-à-dire qu'on était là pour accueillir les gens qui venaient. Mais naturellement, c'est ouvert à tous, donc ça changeait. Malheureusement, c'est un petit peu ce que j'ai pu déplorer, moi. C'est que les gens viennent une fois, deux fois, peut-être trois fois, mais les gens ont du mal à avoir une comment dire, une régularité quand il n'y a pas d'enjeu monétaire, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas payer le cours ou qu'on ne les paye pas. Enfin bref, tu vois, donc...
Ou qu'il n'y ait pas une urgence vraiment immédiatement. Voilà.
Et donc pour la simple réflexion, mais néanmoins, David, qui est donc permanent à l'usine, lui, il s'est montré très assidu. Uh-huh. Et c'est dans le cadre de ses activités avec la Brèche qu'ils invitent souvent des gens à intervenir. Alors moi, j'ai eu l'occasion d'assister à une séance très intéressante au Spoutnik, où ils avaient invité des femmes de ménage à Paris, qui avait été à l'origine d'un mouvement de grève. Je ne sais pas si tu as entendu parler
de ça.
Oui,
je me souviens. C'est pas très ancien, ça, quelques mois.
Alors, la manifestation à Genève, c'est-à-dire la présentation du film au Spoutnik, a eu lieu il y a quelques mois, mais la grève, elle a eu lieu, je pense, il y a quelques années déjà. Mais donc, c'était des femmes de ménage d'un groupe d'hôtels qui s'étaient mises en grève pour protester contre leur salaire, enfin leurs conditions de travail. Donc j'ai trouvé cette soirée très intéressante et ils en font donc d'autres. Et David est venu vers nous en nous disant, ben voilà, ils aimeraient bien inviter Lydia Cirillo. Et il nous parle de ce texte qu'elle a écrit et qui peut effectivement répondre à nos préoccupations. Et on s'est dit, ben alors voilà, quelle bonne idée, organisons conjointement ensemble la venue de cette dame. Et donc, voilà, cette soirée, elle aura lieu le 31 octobre, comme tu l'as dit tout à l'heure, je le répète pour ceux qui nous rejoindraient éventuellement, à 18h au Théâtre de l'Usine, je me corrige, au premier étage du Théâtre de l'Usine, donc dans la salle de répétition. Et suite à cette conférence débat, nous avons aussi la possibilité de voir un film au cinéma Spoutnik, je crois qu'il est à 20h30, mais il faut quand même vérifier sur le site. Et c'est un film qui retrace la naissance du mouvement Nuit Debout. Donc voilà, on est dans l'activisme.
Oui.
Et je ne sais pas si elles viennent ensemble, mais en tout cas, il y aura aussi une autre personne qui viendra, qui est une militante du collectif Macao. Je ne sais pas si tu as entendu parler du Macao.
Les théâtres.
Ouais.
À Milan.
Exactement. Occupé. Exactement. Ouais. Alors, c'est pas vraiment un théâtre. C'est apparemment, je dis tout ça avec des grands guillemets parce que je ne suis pas la science infuse, mais c'est des gens qui ont squatté un gratte-ciel qui était inoccupé depuis 15 ans dans le cœur de Milan, et avec l'idée d'en faire un musée des arts alternatifs, enfin, qui ne soit pas forcément l'art... ouvert à tous, quoi. Mmh. Et donc, il a été squatté par plein d'artistes de tous les bords, même des électriciens, des éclairagistes, des chorégraphes, des critiques. Et ce mouvement a été très, très, très fort. Je pense que leur lieu existe encore. Par contre, je ne suis pas sûre. Je crois qu'ils ont quitté le gratte-ciel et qu'ils sont actuellement dans un autre bâtiment. Mais voilà, donc, une militante de ce collectif, de cet espace d'art Macao, qui tire son nom d'ailleurs, il faut le dire, je trouve ça amusant, c'est un peu une moquerie par rapport aux grands centres d'art comme le MACBA à Barcelone ou le MoMA à New York, donc voilà, ça c'est le Macao. Et donc l'idée c'est de permettre aux Genevois, aux Suisses, romans ou même aux immigrés, peu importe, à tous les gens concernés par les histoires de lutte et de culture particulièrement, enfin de lutte dans les milieux culturels, de venir parler avec ces personnes de leur situation. Alors on peut dire peut-être de Lydia qu'elle est plus une théoricienne, activiste certes, mais peut-être de profiter de sa réflexion et de la militante de leur expérience. Enfin, naturellement, tout se mélange, et réflexion, action. Et c'est pour ça que nos séances de réflexion s'appelaient réflexion-action. L'idée étant que la réflexion débouche aussi sur des actions. Si je peux citer quelque chose, je parle,
bien
mais
sûr,
si tu veux m'interrompre,
oui. Non, William, tout ça est très intéressant.
Sens-toi libre.
Bien sûr, t'inquiète pas, je t'interromprai s'il le faut, mais là, en l'occurrence, c'est tout très clair,
c'est clair,
on y va comme ça.
Alors, je continue parce que c'est vrai que, en ce qui me concerne, donc moi, personnellement, Sonia Rickley, je suis une artiste de la performance. Et bon, on a appelé ça un peu, la performance, elle s'appelle de toutes les manières. Hein. Tu as le action art, le live art, le body art, le performance art, l'art de la performance, l'art du concept. Enfin, il y a des dérivés et des multiples. Mais ce qui m'importe à moi, c'est l'action. Et donc l'action immédiate, l'action qui serve des discours, des objectifs. Et donc, c'est vrai que de ma pratique artistique... je vois quelque chose de très militant. Mmh. Et c'est pour ça aussi que j'ai rejoint la culture lutte, c'est que j'avais l'impression qu'une brèche s'ouvrait, pour revenir au cercle, la brèche, dans l'idée que, effectivement, les artistes peuvent parler peuvent militer en produisant des pièces de théâtre, des tableaux, des livres. Mais c'est vrai que pour moi, se pose toujours le problème de la réception. C'est-à-dire que pour que le spectateur ait accès à ça, il faut déjà qu'il ait envie d'aller au théâtre, qu'il ait envie de lire ce livre. Et c'est vrai que pour moi, la culture lutte offrait la possibilité de dire à tous, citoyens genevois, ce qui ne va pas et le montrer ouvrir la discussion dans l'espace public, quoi.
Oui. Alors là, en l'occurrence, il s'agit d'une conférence débat, donc c'est extrêmement, c'est dialectique. Donc les personnes arrivent, vont se parler, argumenter, contre-argumenter, etc., etc. Selon toi, l'art doit-il dépasser cette forme de dialogue-là ? Est-ce que l'art doit justement déclencher des réactions qui vont aller voir plus loin derrière un discours qu'une personne tient ? Mais l'art doit-il interroger les tripes d'une personne ? C'est-à-dire dépasser le simple discours tel qu'il aura cours, en tout cas pour cette conférence.
Ah, écoute, je ne vais pas me lancer sur une définition des objectifs de l'art aujourd'hui, mais ce que je peux dire, c'est que je pense que grâce à nos moyens d'expression artistique, à tous, on a des outils incroyables pour agir sur notre société et modifier et ouvrir les pensées et les regards de nos citoyens, ceux qui n'ont pas la chance ou qui n'ont peut-être pas envie d'utiliser nos moyens d'expression. Donc je pense que l'art peut effectivement servir à réinterroger, à questionner notre société, et pas uniquement dans une salle de théâtre ou dans un musée, mais également dans la rue. Alors je peux te citer par exemple une petite boutade, enfin c'est pas une boutade, c'est ni un gag, c'est à double tranchant. Peut-être tu as entendu parler de notre action dernièrement, les sculptures de la ville de Genève qui se sont habillées d'un t-shirt au ciseau de la culture lutte. Mmh. Mais oui. Voilà. Alors effectivement, pour les touristes japonais qui venaient photographier le monsieur Gustave Adore au jardin anglais, ça voulait pas dire grand-chose, mais pour nous, ça voulait dire beaucoup. Alors une petite action rigolote comme ça, c'est-à-dire que les statues ont décidé ce soir-là, il faisait un peu froid, de se vêtir d'un petit t-shirt de la culture lutte. C'est aussi une façon de dire voilà, il y a eu tous ces messieurs qui ont été des artistes, Kalam. Les mots m'échappent, les noms me manquent, mais tous ces artistes, Genevois, Rousseau, qui ont donc été des grands hommes à leur époque, qui le sont aujourd'hui toujours, peut-être sont solidaires de notre action, qui est de continuer à se battre pour qu'on ait tous des conditions correctes de vie et qu'on puisse avoir des scènes aussi, surtout. C'est que la culture reste diverse et variée et qu'elle ne soit pas cantonnée à un style et à un public et à un type de scène. Voilà. Et c'est avec notre but avec cette rencontre, cette conférence débat, c'est surtout de comparer les expériences. Comment ça se passe en Italie? Comment ça se passe à Milan? Qu'est-ce que Lydia peut nous raconter du théâtre au Valais de Rome qui a été occupé? On va également évoquer certainement la Volksbühne à Berlin qui a également été occupée récemment. Là, quand je te parle de Macao à Milan, ça date de 2012. Le Teatro Valle à Rome, je crois que c'était aussi 2012. Mais Berlin, c'est maintenant. Alors, comment nous, Genevois, qui avons tendance à être un petit peu frileux pour les grandes actions, comment on peut peut-être se réapproprier leurs aventures, leurs expériences et voir comment tirer profit de ceci pour que nous aussi, on perdure et qu'on ne se laisse pas dévorer par le capitalisme et puis cette société de consommation qui prend le dessus.
Tout à fait. Alors toi, de ton point de vue, du point de vue artistique, du point de vue du mouvement de la culture lutte ici à Genève, quel bilan vous tirez ou en tout cas quel constat vous tirez de ce qui nous encercle actuellement ?
Aïe, 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 ça c'est encore une grande question, quel constat ? Eh bien écoute, il y a un petit souci, si là je peux intervenir en plaidant, il y a une initiative, nous avons lancé, enfin nous, certaines personnes, nous avons lancé une initiative, alors moi je ne fais pas partie du comité d'initiative, mais je soutiens largement cette initiative, et donc l'idée est de modifier l'article sur la culture dans la Constitution genevoise. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là en modifiant cet article ? Mais je crois que ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait un meilleur dialogue entre le canton la ville et les communes afin que la répartition de l'argent se fasse de manière sensée, de manière à ce que les artistes puissent continuer à produire leurs pièces. Et donc, si on est tout le temps en mouvement, c'est-à-dire qu'on doit tout le temps réagir. Tu me disais alors, quel est votre constat ? Eh bien, notre constat est qu'il y a un problème de dialogue entre la ville, le canton et les communes. Notre constat est que la politique culturelle qui est menée à Genève actuellement, eh bien, malheureusement, elle nous contraint à une forme d'individualisme, c'est-à-dire que chaque acteur est un peu dans son petit coin, chaque acteur culturel est presque encouragé, j'ai envie de dire, à sauver ses fesses, au dépens de la communauté, de la collectivité. Donc on est tous tellement précaires, c'est-à-dire que les conditions sont de plus en plus difficiles, donc on a de plus en plus de mal à penser au commun, mais on pense à l'individu et du coup, ben voilà, il y a une perte de dialogue entre nous. Il n'y en a déjà pas beaucoup entre les politiques, mais du coup, ça crée la division avec nous. Et nous, on aimerait justement, par cette initiative, essayer de recolmater tout ça et faire que les choses aillent dans un sens plus harmonieux, plus équilibré, pour que justement cette diversité culturelle qui a donné à Genève ses lettres de noblesse, je sais pas, je pense que l'époque des squats, ça a quand même été une belle époque qui a aussi contribué au rayonnement de Genève. Si aujourd'hui Genève est aussi riche, c'est parce que justement il y a de la diversité et nous on se bat pour que ça se maintienne. Et voilà, qui dit justement, c'est, attendez, voilà, dans ma recherche sur le collectif Macao, je suis tombée sur le titre d'un de leurs paragraphes qui dit « Fight is a language », donc la lutte est un langage. Et je pense effectivement qu'une société qui ne lutte pas, c'est une société qui meurt petit à petit. Donc voilà.
Alors là, on constate qu'effectivement, du côté, en tout cas, parmi ses pairs, les actrices et acteurs des mouvements culturels se parlent et agissent et tentent de monter des barricades pour effectivement alerter les populations. Qu'en est-il justement, selon toi, du point de vue des populations ? Est-ce que l'on sent que les personnes, parce que tu l'as dit, on traverse des époques un petit peu compliquées, délicates, avec tout ce qui nous encercle, on le constate tous les jours. Est-ce que les personnes sont sensibles effectivement à ces appels qui sont faits par le mouvement Culture Lutte et par d'autres d'ailleurs, ou est-ce que justement occupés à d'autres choses ou dans des situations où on a tendance à s'introvertir et puis à se communautariser d'une certaine manière et à avoir un petit peu la frousse finalement des grands airs hein, comme ça. Est-ce que tu constates que les personnes sont un petit peu plus défiantes ou qu'elles sont moins soutenantes par rapport à tout ce qui concerne la culture qui pourrait être, disons, moins prioritaire dans l'esprit des gens ?
Alors effectivement, tu as toujours des gens qui sont comme ça. Hein. Tu as ceux qui ne s'intéressent pas, qui disent « Ah, moi, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas au théâtre, moi, je préfère aller voir un match de foot. » Tu as ceux qui te disent, par exemple, lors de notre campagne en 2016, justement contre les coupes dans la culture, c'était les deux fois non, donc les coupes dans le budget culturel de la ville de Genève. Oui, pour ceux qui s'en rappellent, ça s'appelait deux fois non, enfin, c'était notre campagne. À cette époque-là, c'était drôle parce que j'ai été un peu, comment dire, initiatrice où j'ai géré quelques initiatives, quelques actions dans la rue. Et on a souvent été insultés, c'est peut-être un peu fort, mais presque, par des personnes du monde de l'art, mais un autre, celui des galeries d'art. Donc, en nous disant que d'une certaine manière, nos luttes ne les concernaient pas, que leurs artistes n'avaient pas besoin d'argent, que leurs artistes ne demandaient pas de subventions et que nous étions un peu des va-nu-pieds et des saltimbanques. Donc oui, autant, tu vois, de monsieur, madame, tout le monde, il peut y avoir un désintérêt, que même de nos pères, entre guillemets, il peut y avoir une sérieuse désolidarisation. Désolidarité. Peu importe.
Non, désolidarisation.
Voilà. Ouais. Mais par contre, ce que je peux te dire, moi je suis très confiante dans le fait que je pense qu'avec l'art et les actions artistiques, on peut justement changer le regard des gens sur les choses. C'est-à-dire que en étant dans la rue à donner des comment on appelait ça, des tout-ménages, des flyers pour inviter les gens à voter deux fois non, on a été inventif, on a cherché des manières de les attirer. Et le simple fait d'utiliser d'autres moyens, c'est-à-dire d'écrire les choses à la craie sur le sol, de danser au milieu du marché des grottes, ça fait que ces gens qui ne se seraient pas arrêtés se sont tout à coup intéressés à notre cause. Et alors c'est clair que ça demande beaucoup d'efforts, Mais je pense que ça ouvre les esprits et ça permet de rallier d'autres, des personnes. Les gens sont ouverts, ils sont très demandeurs en fait. Ils sont simplement demandeurs.
Ouais, ouais. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Ça nous permet justement, ça nous donne la transition pour parler de cette conférence qui aura lieu donc le mardi 31 octobre à 18h au Théâtre de l'Usine. Conférence débat organisée par Culture en Lutte et le Cercle La Brèche. Hein, spécificité, perspective et limite des luttes dans les milieux culturels. L'art possède-t-il un pouvoir critique et subversif au sein du système capitaliste? Là, toute est la question. Et c'est à ça que l'on va s'atteler ce soir-là. Avec la présence de Lilia Cirillo, justement, tu l'as dit. Et alors, justement, l'idée, ce serait quoi? Ce serait de découvrir les pratiques qui ont pu avoir cours ailleurs. Quand je dis c'est un ailleurs proche, tout de même, en termes de date et de géographie, puisque Milan, ce n'est pas non plus l'autre bout du monde, et puis que c'était dans une période contemporaine. Et voilà, est-ce là l'objectif? C'est de découvrir des pratiques qui ont eu lieu là-bas, qui ont peut-être fonctionné ou qui ont dysfonctionné, et de se les réapproprier?
Oui, alors je ne suis pas sûre qu'on ait besoin de se les réapproprier parce qu'on ne manque pas de créativité ici. Mais effectivement, c'est un partage d'expérience, simplement par curiosité, pour évoluer, pour s'informer, pour se préparer. Et je pense que ça serait intéressant qu'on continue la démarche en invitant d'autres personnes, d'autres systèmes. On avait évoqué aussi au sein des séances de réflexion action, on avait parlé du système au Québec qui semble avoir vraiment une charte dans sa politique culturelle. Et voilà, l'idée, c'est de continuer à être vivant, d'être actif, de s'inspirer de ce que font les autres pour continuer à être fort et plus fort et pas plus faible. Voilà.
Mmh. Quelles sont les pistes que vous envisagez au sein du mouvement Culture Lutte, disons, pour aller vers le mieux?
Eh bien, écoute, déjà, alors, au-delà de nos actions rigolotes telles que ces sculptures qui se sont habillées d'un t-shirt Culture Lutte, comme je te l'ai dit, on a lancé cette initiative. Donc, il n'y a pas que la Culture Lutte. Il y a certains membres de la Culture Lutte qui en font partie du comité d'initiative, mais il y a aussi d'autres personnes des milieux culturels. Et donc, l'idée, c'est de réunir 12 000 signatures d'ici au mois de décembre pour modifier cet article de la Constitution genevoise qui concerne la culture. Et on pense que il faut déjà qu'on réunisse ces 12 000 signatures, donc n'hésitez pas à aller sur le site Prenons l'initiative pour la culture, c'est prenonslinitiative.ch. Et donc là, vous pouvez télécharger des feuilles de signature à renvoyer au plus vite ou alors à déposer à Fonction Cinéma qui se trouve à la Maison des Arts du Grutli. Et donc, comme on a besoin de 12 000 signatures, ça fait beaucoup de travail. Si vous pouvez nous aider, c'est toujours bienvenu. Et tout ça est à rendre d'ici au mois de décembre, en espérant qu'on recueille ces 12 000 signatures. Alors après, forcément, il y aura une votation pour soumettre la question au peuple genevois, en espérant qu'il aille dans notre sens. Et dans ce cas-là, si on pouvait déjà modifier cet article, je pense que ça serait déjà une bonne base. Ensuite, je crois qu'il faut continuer à faire des actions dans la rue, dans les théâtres, continuer à faire des conférences et provoquer la rencontre.
Tout à fait. Selon toi, la culture actuellement, ici à Genève, peut-on dire qu'elle est? Tu l'as ébauché tout à l'heure. Tu as dit qu'il y avait quand même un terreau fertile ici. Il me semble que l'on peut clairement dire qu'il y a dans la population genevoise une forme d'effervescence. Comment est-ce que toi tu vois ça? Comment est-ce que tu observes la scène locale, la scène culturelle, artistique locale?
Alors, je pense que Genève est très riche. Vu pour sa petite taille, on a un panel d'artistes. On a beaucoup de professionnels, on a beaucoup de variétés, on a vraiment une scène très très riche. Moi je dis je suis ravie de vivre ici et pas à Londres parce que déjà à Genève il y a des choses à faire tous les jours, donc c'est difficile parfois de trouver son chemin dans l'offre culturelle, tellement c'est dense. Mais malheureusement je pense que contrairement à certains endroits, notre politique culturelle ne soutient pas assez ces talents et c'est vrai que ça nous cantonne malheureusement parfois quelque chose de plus provincial. Voilà, on sait que un acteur qui aura envie de percer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir à Paris et c'est malheureux parce que voilà, du coup ça donne que des Vincent Pérez qui était suisse à la base deviennent français, des Jean-Luc Bidault, bon alors lui encore, mais souvent les artistes qui réussissent à Paris, ils deviennent français, alors que peut-être il faudrait juste se rappeler qu'on a nous-mêmes des artistes qui font des tournées internationales telles que Gilles Jobin, Yann Duvendak, Yann Marusic, des chanteuses comme Sophie Hunger, enfin des gens brillants, voilà.
Tout à fait, mais c'est vrai que c'est amusant, parce que là, tu as cité deux noms illustres, Jean-Luc Bidault pour une époque un petit peu plus reculée, et puis Vincent Pérez, et c'est vrai que j'imagine que dans l'esprit de beaucoup de personnes, ce sont effectivement des gens complètement français, qui sont nés en France, etc. Et à ce point, c'est-à-dire que si on arrive à ce point-là, de la fuite des cerveaux, et que les personnes se représentent, ces personnes-là, plus que d'un point de vue effectivement français, en l'occurrence, c'est-à-dire que là, quel est le problème ? C'est qu'on ne sait pas encourager ces personnes-là ici, et qu'elles doivent donc du coup quitter le territoire pour arriver à donner tout leur allant. Quel est le problème ? D'où ça vient ?
Mais je pense que ça, c'est une réflexion de fond. Je ne vais malheureusement pas pouvoir te donner toutes ces réponses. Je ne les ai pas, malheureusement. Mais je pense qu'effectivement, il faut continuer à travailler de concert avec les politiques pour avoir une politique culturelle riche et forte et qui promeuve la création artistique, qui fasse un lien entre les écoles et les scènes. Parce qu'on voit qu'on a de plus en plus d'écoles. La HED forme chaque année des dizaines, voire des centaines d'étudiants brillants. Elle se targue de sa réputation croissante, mais ensuite, si on n'arrive pas à avoir des politiques qui s'entendent pour nous donner des subventions, et ben ces étudiants, ils deviennent quoi ? Si on n'a pas de scène pour les faire jouer, et c'est un petit peu ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que les programmations, les différents théâtres ont toujours moins d'argent, donc peuvent moins donner, moins participer à la production des jeunes artistes. Donc souvent, voilà, c'est les gens qui sont déjà confirmés qui continuent, et puis les jeunes artistes doivent lutter comme des dingues pour essayer de se faire une place, et c'est de plus en plus difficile. Ouais. Les années...
C'est un manque de volonté politique, clairement. C'est-à-dire que l'idée, ce serait, via justement ce type de signatures que l'on récolte, ce serait d'arriver à contraindre d'une certaine manière les politiques à s'intéresser pour de vrai à tout ce terreau fertile dont on parlait tout à l'heure et dont on se prive finalement.
Et à prendre des risques aussi, parce que naturellement, c'est prendre des risques contre une droite capitaliste qui veut mettre l'argent ailleurs.
Bon, est-ce que, de nouveau, c'est une question, mais juste si tu voulais ébaucher quelque chose, sinon on en reparlera une autre fois, mais on va pas évidemment aborder l'idée du rôle de la culture, c'est trop vaste, mais on voit bien qu'on est dans des situations un petit peu délicates, qu'il y a beaucoup de choses qui sont remises en question, que des valeurs peut-être disparaissent, effectivement, que l'on devient finalement, que l'on est aux mains de médias de masse qui jouent sur l'émotionnel, sur la rapidité, sur la vitesse. Est-ce que là, la culture a quand même, selon toi, des enjeux et un rôle à jouer, très clairement ?
Ah ça, c'est sûr qu'elle est totalement... Enfin, je veux dire, la culture, enfin, les arts en général sont dans un autre mouvement que celui que tu viens de citer. C'est-à-dire qu'elle te force à t'arrêter, elle te force à écouter, elle te force à regarder, à te poser. Et c'est vrai que c'est un arrêt... dans cette course effrénée qu'on mène tous avec nos portables, nos ordinateurs, nos Facebook, nos WhatsApp, toute cette information qui t'arrive en flot permanent et intensif, eh bien, l'art te propose justement de te freiner et de prendre ce temps pour repenser le monde.
Exactement. C'est là où on comprend encore moins justement cette manière d'être rétif au sein des institutions. Alors faut-il croire qu'ils ont peut-être intérêt à ce que les gens aillent vite et puis se désintéressent peut-être de plein de choses ?
Mais écoute, je ne sais pas, mais moi je vois malheureusement l'exemple le plus frappant et flippant et flagrant que je puisse te citer, c'est comment on voit toutes ces grandes entreprises qui licencient malgré le fait qu'elles continuent à faire du bénéfice et qu'elles licencient simplement pour faire encore plus de bénéfices. Et je crois que ça résume bien l'état d'esprit de notre société.
Complètement. Et alors justement, eh bien, le mardi 31 octobre à 18h, tout ceci sera certainement abordé, j'imagine.
Assurément, puisque non, je pense que ce sont des questions qui intéressent beaucoup nos invités, tout ce qui est capitalisme et comment lutter contre ça.
Ouais. Et alors, on le rappelle, le libellé de la conférence débat, c'est spécificité, perspective et limite des luttes dans les milieux culturels. Qu'en est-il justement à l'usine, au sein même de l'usine, de ces luttes ? Est-ce que là, tu y vois également un rôle particulier de cet endroit qui est quand même extrêmement fréquenté et peut-être par des populations qui changent ? Et est-ce que là, on sent qu'il y a peut-être justement une acuité, une vision de changer les choses ? Ou justement, à l'inverse, est-ce que c'est là aussi un endroit que les gens fréquentent d'une manière différente et peut-être plus dans un aspect de distraction et que de distraction ?
Ah non, je pense que ça reste... L'usine, ça ressemble très fort à... c'est un centre culturel autogéré, donc ça nous renvoie à Macao, ça nous renvoie à plein d'endroits sur la planète. et l'usine, heureusement qu'elle est là et qu'elle continue à proposer ce qu'elle propose. Alors certes, les jeunes d'aujourd'hui sont plus que nous étions il y a 10 ou ceux d'avant il y a 20 ans, mais je pense que l'usine, c'est encore un lieu où on se pose les bonnes questions, où on reste vivant, attentif et éveillé à toutes les... Enfin, je veux dire, à l'intérieur de l'usine, ils n'arrêtent pas. Moi, je suis toujours très impressionnée parce qu'ils mènent constamment des ateliers pour contrer le harcèlement.
Tout à fait, oui.
Enfin, ils sont très éveillés. Et parfois, quand tu vois la tête des videurs, tu te dis « Oh là là, celui-là !» Eh bien non, ils participent tous. Ça reste vraiment encore un collectif, une collectivité. Ils ont chaque semaine une réunion et où ils ont une démocratie, un fonctionnement hyper démocratique. Et c'est certain que les gamins de 16 ans qui sortent aujourd'hui là-dedans, ils n'ont pas encore ces questionnements qu'on a, nous, peut-être, aujourd'hui. Mais je pense que c'est en entrant dans des lieux comme celui-ci qu'ils se forment une pensée, oui.
Tout à fait.
Et un caractère.
Absolument. Et c'est vrai que, justement, là, on salue le travail qui est fait, tu viens de le dire, par rapport au questionnement que l'on formule de son rapport au travail au sein même de l'usine, dans les équipes de l'usine, qui, en plus, concernent des travaux qui se font souvent la nuit et qui sont dans des situations, par ailleurs, aussi délicates.
Tout à fait. Non, moi, je suis toujours très admirative. Et puis, bon, il faut savoir que les équipes changent, les permanents se renouvellent d'année en année. Mais il y a toujours les vieilles têtes. Enfin, les vieilles têtes, je pense à Michel qui a son salon de coiffure, Radio Momie pour les intimes, ou Greta Gratos, c'est des personnes de la première heure qui sont toujours là, toujours très, très attentives à ce qui se passe. Et le fait qu'il y ait des différentes générations qui se côtoient, ça rend cet endroit exceptionnel. Enfin,
ouais. Voilà. Alors écoute, on arrive doucement au terme de l'entretien, mais encore une dernière question avant que l'on rappelle très prosaïquement le programme de la soirée. Selon toi, les défis pour vous au sein du mouvement La Culture Lutte, quels sont les défis qui à nos portes?
Waouh, il y en a énormément, mais je crois que le plus grand défi, c'est de faire comprendre à nos collègues du monde culturel qu'ils sont tous en train de... Là, je suis en train de citer quelqu'un que je ne nommerai pas ici, mais tout le monde est en train de se battre pour son steak, mais ils n'ont pas compris que la boucherie était en train de fermer. Voilà.
Ben voilà. Ce sera le mot de la fin. C'est un constat dur, mais je pense qu'il représente bien la réalité. Y a-t-il des questions parmi nous qui surgissent? Sinon, on va juste rappeler le programme de la soirée. Donc, la conférence débat culture en lutte, c'est spécificité, perspective et limites des luttes dans les milieux culturels. En compagnie donc de Lydia Cirillo, militante du collectif Macao 2000 ans.
Ah non, je corrige. Là, oui, je sais, ça porte à confusion. Mais non, Lydia Cirillo n'est pas militante du collectif Macao. Il y aura aussi une militante, mais on n'a pas pu la citer parce qu'on ne sait pas encore qui sera là. Voilà.
Ouais, c'est moi qui ai un petit peu décroché. Alors, ce sera donc le mardi 31 octobre à 18h au théâtre de l'usine, à la salle de répétition du premier étage, au 11 rue de la Coulouvrenière.
Exactement, et ça sera suivi d'un documentaire sur la naissance du mouvement Nuit Debout au cinéma Spoutnik. Voilà.
Sonia Rickly, je te remercie beaucoup.
Merci,
et à
William.
La prochaine, bon courage.
Merci, à bientôt.
Voilà, alors nous, nous allons nous quitter là, avec quelques minutes de retard, mais pas tant que ça finalement. On a réussi quand même à bien resserrer les temps. On va se quitter avec une dernière petite chanson, et puis on rappelle à nos auditrices et auditeurs que tous les podcasts se trouvent sur le site www.libradio.org, que nous sommes évidemment toujours attentifs aux appels que vous feriez. Nous sommes une radio mobile et engagée. Donc là où vous nous conviez, a priori, on vient. Enfin, il faut quand même qu'il y ait du contenu, disons, à mettre en valeur, bien entendu. Mais en tout cas, voilà, n'hésite pas à nous contacter. Et puis sinon, toutes les informations, la newsletter également sur le site. Et sinon, pour le direct, ce sera la semaine prochaine. La semaine prochaine, d'ailleurs, nous serons... Oh là là, ma mémoire. La semaine prochaine, nous ne serons pas ici.
À l'Unimail, tu m'as dit que vous seriez pour la commémoration.
Ah, c'est déjà la commémoration?
Ah bah ouais.
Alors voilà, on sera à Unimail. Et donc, il faut nous retrouver là-bas. Mais les informations sont sur le site et bien sûr au travers de la newsletter. Allez, c'est fini pour nous. On remercie beaucoup l'équipe, toute l'équipe de Fréquence Banane, Genève et puis l'équipe de Lausanne. Et on se quitte avec ça, c'est Bretagne Libre. C'est parti. Je suis fils d'un homme.